Bon matin, très heureuse d'être avec vous ce matin et de creuser avec vous une histoire de famille dans la parole. Et on croit que la parole parle encore aujourd'hui, vient nous enseigner, vient nous transformer, vient nous nourrir, vient nous dire comment Dieu voit les choses. Et ce matin, on va creuser une famille qui vit de grandes difficultés. Et ce matin, je voulais commencer en nous plongeant dans nos propres histoires. Comment votre propre famille vous a amené à être fier d'elle? Étiez-vous content d'apporter des amis dans votre famille? Ou non, il se passait tellement de choses difficiles ou honteuse, ou que je ne voulais pas que les gens sachent dans quelle famille je pouvais grandir. Ou peut-être que l'inverse, comme parent, j'ose tellement pas nommer ce qu'on peut vivre comme famille parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Alors là aussi, je suis pris au... Dans ce que je peux vivre dans ma famille. Puis là où je veux nous amener, bien, c'est une chose que nous-mêmes, on a peut-être pu grandir dans des familles où il y avait des grands défis, où on a traversé des tempêtes. On en traverse toutes, des tempêtes. Mais là où je veux nous amener, comme Église, comme frères et sœurs, c'est quoi le regard que nous, on pose sur les familles qui vivent des difficultés? Et que c'est facile de dire, hey, moi, si j'étais à la place de lui ou d'elle, voici ce que j'aurais fait. Ça doit être pour ça que ça vire tout croche dans leur famille. S'il avait fait ça, ça ne serait pas arrivé. S'il aurait dit ça, ça ne serait pas arrivé. Et là, on se positionne en bon spécialiste qui sait toute chose et qui aurait donc fait ça différemment. Et c'est sûr que le résultat aurait été différent. C'est épouvantable quand on voit ça dans notre cœur. Qui peut vraiment juger la situation d'une famille quand on n'a pas traversé, on n'a pas le même bagage, on n'a pas traversé les mêmes épreuves, bref. Alors ce matin, on va regarder une famille qui vit des grands défis, puis on pourrait vraiment être porté à dire, mais voyons donc, comment ça, donc ça s'est passé de même. Hey, moi, avoir été à la place de, j'aurais fait ça tellement différemment. Puis c'est là que je ne voudrais pas qu'on aille, mais que la parole vienne parler à nos cœurs, vienne nous enseigner, puis vienne nous dire, qu'est-ce qu'à travers cette histoire-là, tu veux me dire à moi dans mon cœur, à travers peut-être le fait que j'ai grandi dans une famille qui a eu beaucoup de défis, beaucoup de tempêtes, et j'en porte les marques encore aujourd'hui, mais peut-être aussi l'inverse, où je suis actuellement dans un contexte où ma famille traverse des moments difficiles, puis je suis en train de ploire, d'être sous la culpabilité puis la condamnation. Alors ce matin, peu importe l'état de votre famille, puis même à travers ce qu'on va voir, vous allez voir qu'on a un Père, un Dieu qui est tellement compatissant, tellement puissant, qui est au-dessus de toutes les situations de nos vies. C'est ça qu'on va aller voir, puis on va... J'espère que vous allez ressortir d'ici en disant, je m'accroche encore plus à mon Père céleste, parce qu'il voit ce que je vis, si c'est le cas actuellement dans vos histoires de famille. Alors, ça va être, on va aller voir l'histoire de David, le roi David, puis souvent on va regarder l'histoire de David à travers le fait que c'est un conquérant, c'est un guerrier, c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais là on va regarder comment... Ça s'est passé dans sa propre famille. Puis on va aller voir, bien, entre autres avec Absalom, un de ses fils, comment ça s'est passé. Mais avant, j'aimerais vraiment prier, juste avant qu'on ouvre les Écritures. Prions. Seigneur, ce matin, on ne peut pas ouvrir ta parole en regardant ta parole comme si c'était n'importe quoi, juste un livre. Mais Seigneur, on veut regarder ta parole comme étant toi qui viens t'adresser à nos cœurs, selon ce que chacun de nous avons besoin d'entendre de toi. Seigneur, si ce n'est pas toi qui fais cette œuvre-là par ton esprit, c'est en vain. On a besoin que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres notre cœur et que tu viennes faire cette œuvre-là qui a besoin d'être faite en nous, d'être relevée, d'être restaurée, d'être enseignée, d'être corrigée, d'être exhortée. Et Seigneur, on veut te découvrir encore plus. Ce n'est pas juste des mots, c'est toi qu'on veut rencontrer. Alors je te prie que ta parole vienne nous faire découvrir une autre dimension de toi qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait dans nos têtes, mais on a besoin de le vivre par ton esprit en nous. Alors viens, Seigneur, faire cette œuvre-là. On a besoin, on a tellement besoin. On est dépendant de toi, de ton esprit. Alors, ce matin, viens nous rencontrer et fais l'œuvre que chacun de nous avons besoin pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans 2 Samuel, on va aller voir l'histoire de David. Je n'oserais pas vous demander, savez-vous combien de fils qu'il y a eu et combien de femmes il y a eu? Peut-être que vous seriez surpris. Mais on va voir dans 2 Samuel 3, les versets 2 à 5, la parole de Dieu qui nous dit « Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon. » Là, ça se peut que je dise ça tout croche, là. « D'Akinoam de Jizril. Le second, Kileab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, je l'ai pratiqué trois fois hier, je ne l'ai pas plus. Shephatia, fils d'Abitaï. Et le sixième, Jitréam d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Alors, on voit ici six fils, six femmes. Puis, je veux attirer votre attention que le premier-né, c'est Amnon, c'est l'aîné. Et le troisième, c'est Absalom. On va regarder un peu l'histoire qui tourne autour de ces deux enfants-là. Mais si vous iriez lire dans, un petit peu plus loin, vous apprendriez que David a eu 13 autres garçons, et probablement plus, parce qu'il y avait des concubines. Et si on se souvient de l'enfant aussi que Bathsheba a perdu, qui ont perdu, David et Bathsheba, un autre de ses fils. Alors bref, ça devait être compliqué comme famille, autant d'enfants, autant de femmes, autant, en tout cas, ça crée bien des dynamiques, je suis convaincue. Mais ce qu'on sait de David, si vous lisez, parce que là, je n'ai pas sorti tous les passages, mais ce qu'on sait de David, c'est que Dieu marchait avec lui, Dieu le bénissait. Et la parole va nous dire que Dieu devenait de plus en plus grand. L'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alors, et même David reconnaissait que si ces guerres, ça réussissait, puis qu'il pouvait prendre du territoire, c'est parce que Dieu était avec lui. Alors, il marchait Dieu et David ensemble. Puis si vous lisez, puis on connaît plein d'histoires de David où on le voit constamment en train de demander à Dieu, « C'est-tu le temps? Je dois-tu monter? Je dois-tu aller à la guerre? » On voit que David veut se soumettre à Dieu parce qu'il sait que si c'est pas Dieu qui marche en avant de lui, la guerre, ça ne fonctionnera pas, il ne gagnera pas. Alors, on a un David qui proclame haut et fort qu'il a vu Dieu agir dans sa vie. C'est lui qui s'est retrouvé devant Goliath quand il était plus jeune. C'est lui qui dit que pendant qu'il était berger, c'est lui qui, Dieu l'a aidé à tuer des lions et des je ne sais plus trop quoi. Alors, on a un David qui connaît son Dieu puis qui dit, je le sais que quand je marche avec mon Dieu, c'est puissant, c'est grand ce que je vois apparaître et je veux marcher collé à mon Dieu. Mais je n'irai pas vers l'histoire de Bathsheba, mais la conviction de Dieu, de David, de dire « je le connais ». Puis si vous lisez ses psaumes, vous allez voir qu'il repasse constamment « qui est Dieu pour lui? Qui est Dieu pour lui? Qui est Dieu pour lui? » On voit que Dieu, c'est pas quelqu'un qui a lu, qui a entendu des histoires passées. C'est quelqu'un qui côtoie, avec qui il vit, avec qui il a une relation. Et Dieu va venir mettre dans son cœur à David, dans 2 Samuel, il va nous dire, David va dire à Dieu, « Je le sais que tu vas bénir ma maison. » Et Dieu va dire, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » N'oublie pas, ton trône, ta maison vont toujours être assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. On n'a pas un Dieu qui ment. On n'a pas un Dieu qui change d'idée. Alors, il a déclaré ça sur David. Puis, je trouve ça important qu'on l'ait en tête, parce qu'après, il arrive toute une tempête. Puis, on pourrait faire, est-ce que Dieu dirait encore la même chose? Parce qu'il y a toute une tempête qui arrive dans cette famille-là. Alors, la parole de Dieu vient nous informer que le fils aîné de David, alors on s'en va voir Amnon, dans 2 Samuel, je cherche la façon de... Ah oui, 2 Samuel 13, les versets 1 et 2. Alors la parole de Dieu nous dit, « Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. » Vous comprenez qu'ils ne sont pas de la même mère. Alors, Amnon, c'est comme sa demi-sœur. Mais c'est la sœur d'Absalom, Tamar. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Alors là, on se retrouve dans un contexte où le péché, hein, ces désirs-là où moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux, comment je veux, je me soumets à personne, c'est moi qui décide, je suis en train de lutter avec des désirs. On voit qu'ici, Amnon est saisi de ça. Et pourtant, souvenons-nous, c'est toute une famille qui marche, où ils ont vu Dieu agir à travers des guerres, qui ont vu leur père réussir, ils ont vu des choses. Mais ici, on voit Amnon qui lutte avec un désir puissant de vouloir avoir une relation sexuelle avec sa demi-sœur. Et on évolue dans des environnements actuellement où on va expliquer des fois les choix de nos comportements par le fait qu'on va dire qu'on a été blessé, qu'on a été rejeté. Puis c'est vrai qu'il y a des comportements qu'on a à cause de blessures, à cause de traumatismes. Mais il y a aussi des réactions et des comportements qu'on a parce qu'à la base, le péché veut nous saisir, le péché veut régner, le péché veut prendre toute la place. Puis quand on laisse prendre toute la place, ça a des impacts dans nos vies, mais ça a des impacts dans la vie des autres autour de nous. Ça détruit. Alors, des fois, on est dur en train de juger. Mais moi, j'aurais fait ça comme ça, comme ça, comme ça dans cette famille-là. Et pourtant, quand on s'arrête puis qu'on écoute l'histoire de cette famille-là, bien, on se rend compte qu'il y a une qui, tout d'un coup, a laissé le péché prendre toute la place et venir faire des dommages terribles, pas juste à soi, aux autres. Alors, on voit qu'Amnon est pris, puis il y a un super bon ami. Alors, ça, on va voir après dans le verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Alors, si vous comprenez là, ce qu'on vient de dire, c'est son cousin, bref. Il lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie, que je le prenne de sa main. » Mais là, on a un Amnon qui n'est pas très bien entouré, qui a un ami qui l'encourage à aller vers le péché. Et c'est nos vies, ça. C'est vraiment nos vies. Quand il y a quelque chose qu'on veut absolument, on va des fois s'entourer des gens qui vont venir confirmer en nous, « Ouais, c'est bon, tu pourrais aller faire ça. » On ne va pas nécessairement vers les gens qui pourraient dire, « Non, fuis, tu es en danger. » Alors Amnon ici, il n'est pas bien entouré. Et ça l'amène encore plus à vouloir concrétiser ce que le péché fait en lui, désire faire en lui. Alors, dans nos familles, le péché, on lutte tout avec le péché, mais comme chrétien, le Seigneur, par son sang, nous donne la victoire, mais il reste quand même que le péché, il rôde. De qui on s'entoure? Alors, ces choix-là qu'on fait, on semble les faire des fois juste pour nous, comme si on pensait que ça n'avait pas d'impact sur les autres. Mais pourtant, ça vient briser des familles par les décisions qu'on a pu prendre, les choix qu'on a faits. Fait qu'ici, il écoute la voix de son cousin, puis vous lirez tout le détail de comment ça se met en action. Mais il se retrouve, Amnon, devant sa sœur, sa demi-sœur. Alors, dans 2 Samuel 13, les versets 12-17, elle va répondre, elle va dire, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Fait que même quand la personne devant dit, « Arrête, je t'exhorte, je t'encourage, fais pas ça », il continue de le faire. Continue dans son plan. Puis vous savez, quand le péché, on le consomme, il y a une dureté dans notre cœur qui s'installe. Fait que on voit après qu'Amnon eut pour elle une forte aversion après, plus forte que n'avait été son amour. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par amour. Il faudrait le creuser. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. La dureté du cœur, le péché, c'est puissant, le péché, c'est... Et que ça fait des dommages. Et ce matin, c'est quelque chose que je trouvais important à insister, c'est cette dimension-là. Parce que la solution au péché, c'est Christ, c'est son sang, c'est son sacrifice, c'est son esprit. Mais si ce qu'on dit, c'est parce que j'ai été blessée que j'ai fait ça, si c'est parce que j'ai un quelconque traumatisme, et ça se peut, là, je prêcherai contre ma propre profession, mais on oublie la dimension du péché, puis on oublie la solution, la victoire, elle est où? Quand le péché nous saisit. Mais là, on voit que peu importe l'angle qui est pris, Amnon avait une idée, puis il l'a actualisée. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vécu des situations d'abus sexuels dans vos familles, d'abus physiques, d'abus, alors que nos familles devraient être l'endroit où on est en sécurité. C'est pas ça qui arrive. On est dans un endroit où il faut se protéger. Et c'est ça que Tamar va vivre ici. Et pour Tamar, le fait qu'elle ait été déshonorée, il y a un paquet de conséquences pour sa vie après. Et là, on a beaucoup de questions devant Dieu quand ça nous arrive. Pourquoi Dieu t'a permis ça? Pourquoi tu n'as pas arrêté ça? Pourquoi? Puis je ne vous donnerai pas de réponse parce que je n'en ai pas. Dieu a ses réponses à lui. C'est différent d'une fois à l'autre, mais il demeure que Dieu pleure devant le péché. Il haït le mal. Alors, c'est sûr que Dieu n'a pas regardé ces événements-là en disant, Ouais, je vais faire une œuvre bientôt là, avec ça. Non. Son cœur est déchiré. C'est pas pour rien qu'il a envoyé son fils pour qu'on puisse être restauré, relevé, pour que le péché, le mal arrête de se propager. Alors, le cœur du Père était certainement attristé de ce qu'il voyait là. Puis en même temps, la parole va nous dire qu'il haït le mal. Alors, il ne regarde pas ça avec légèreté. Mais, juste pour vous dire que par le choix d'une personne dans la famille, là, il y a toute une tempête qui va s'activer. Des drames, puis des douleurs, puis des gens profondément blessés qui vont arriver. Alors, si on va un peu plus loin, dans 2 Samuel 13, les versets 18 à 22, Absalom, son frère, lui dit, puis ça, il est en train de parler à Tamar, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. On continue à voir maintenant d'autres cœurs, d'autres réactions dures, où l'on voit Absalom qui dit à sa sœur, « Hey, on va pas parler, là, c'est notre famille. Garde ça silencieux, parle-en pas. Tais-toi, c'est ton frère. Prends pas ça trop à cœur. » C'est quelque chose, mais je suis sûre qu'il y en a ici qui ont vécu ça, là. Parle pas, dis rien. Tu vas briser la famille. Si tu en parles, tu vas briser la famille. Puis tout est viré en envers, où là, tout d'un coup, faire le bien, qui serait de mettre les choses à la vérité pour que le mal arrête, bien, ça devient mal. J'entends que ce serait mal de parler. Alors, Tamar se tait. Et Absalom lui dit, oublie pas que c'est ton frère. Alors, toute la culpabilité, mais toute la confusion dans laquelle ça nous met, où là, on ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et vous comprendrez que certainement que cette femme-là est traumatisée. Alors, d'avoir un regard, et surtout dans la condition que les femmes pouvaient vivre à l'époque, est-ce que vraiment on va me croire si je parle? Fait que bref, Tamar va en vivre possiblement de grandes conséquences, mais on n'en entend pas parler après. Parce que là, le regard se porte sur le cœur, les cœurs durs qui continue dans cette famille-là. Alors, ce qu'on apprend ici, c'est que le roi David, le père, il sait toutes ces choses-là et il est irrité. C'est quand même la bonne émotion à avoir. Il est irrité, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Puis Absalom, on nous dit qu'Absalom, pendant 2 ans, bien, il n'a pas parlé en mal ou en bien d'Amnon. Il n'a pas vraiment rien dit. Mais la parole nous dit qu'il a commencé à développer de la haine pour son frère, son demi-frère. Mais personne n'a parlé. Tout le monde, en tout cas tout le monde, pas tout le monde. David, Absalom connaissait l'histoire. Il ne s'est rien fait. Comment on peut arriver à croire que le mal peut arrêter s'il n'y a pas une justice, des conséquences qui s'appliquent? Comme si on croyait que le mal arrêterait. On a juste à pas trop le regarder, puis c'est sûr que ça va arrêter tout seul. C'est sûr, sûr. Puis on est comme ça dans nos vies. Je voudrais tellement pas qu'on juge en disant, hey, est-ce que dans ma vie, je ferais pas la même chose que d'aller dénoncer ou qu'on vienne me dire, hey, ce que tu es en train de faire, c'est pas ce que Dieu veut. Faut parler, faut mettre ça à la lumière. Tu as besoin d'aide, faut que ça arrête. Il faut que la personne qui est agressée reçoive les soins. Il faut que la personne qui est agresseur reçoive aussi ce qu'elle a besoin, cette personne-là, pour être restaurée, là, pour revenir à la repentance et choisir un autre chemin. Mais en faisant rien, il n'y a pas de guérison. Ça reste comme ça. Et pire que ça, là, on voit que ça commence à faire un fruit qui est mauvais dans le cœur d'Absalom. Alors, si on va un petit peu plus loin, dans 2 Samuel 13, Absalom a un projet bien précis. Et il va donner, Absalom donne cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. » Quand même particulier. Vous autres, soyez courageux. C'est pas moi qui vais le faire. Mais montrez du courage, puis c'est moi qui vous l'ordonne. On voit dans le cœur d'Absalom aussi le fruit de toutes ces réflexions-là qu'il y a depuis plusieurs années, mais où il a décidé que son frère allait mourir. Fait qu'imaginez, dans une famille, c'est terrible. Puis je suis sûre qu'on entendrait des histoires ici où vous avez vécu des choses terribles en termes de conséquences que ça a eu à cause de choix de certaines personnes de vos familles. Alors, David apprend que Amnon est décédé. Et on va voir dans 2 Samuel 13, Jonadab, celui qui a donné un bon conseil à Amnon, là, tu sais, qui a dit, tu devrais dire à ton père d'amener ta mort. C'était pas un bon conseil, là, c'est sarcastique, là, vous comprenez? Alors, c'est le même, c'est Jonadab qui est là et qui va dire à David que mon Seigneur ne pense pas que tous tes jeunes gens, tous tes fils ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Tu ne serais pas supposé d'avoir trop de peine, tu en as juste un qui est mort. C'est quand même particulier quand on s'écoute parler, là. On peut dire des affaires de même où on fait, mais non, c'est complètement, et c'est quand même particulier, c'est Jonadab qui a encouragé Amnon à passer à l'acte, à prévoir un plan, puis c'est ici, j'ai encore Jonadab qui fait, bon ben tiens, il est mort. Hey, toi-même, tu ne te sens pas coupable du conseil que tu as pu donner à Amnon? Ben, il est mort. C'est la dureté de nos cœurs, puis c'est pour ça que je vous dis, et qu'on pourrait juger cette famille-là en disant, mais c'est quelque chose, le péché dans nos cœurs, c'est tellement dangereux, c'est tellement puissant, c'est tellement destructeur. Alors, on voit Absalom qui va fuir après ça. Hein? Je ne peux pas rester dans ma famille, j'ai tué mon frère. Alors, il va fuir. Il va s'en aller. Et dans 2 Samuel 13, encore, 36, 39, la parole de Dieu va nous dire, ben dans le fond, qu'on est venu avertir David de la mort de Damnon. Puis la parole va nous dire qu'il s'est mis à pleurer, David. Puis les fils, tous ses fils sont mis à pleurer. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils, le roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Alors, perdre un enfant, c'est déjà épouvantable. Perdre un enfant parce que c'est le frère qui l'a tué, c'est épouvantable. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous mettre dans un état de dire, hey, dans ma propre famille, si j'avais à vivre ça. Alors, imaginez le cœur de David. Et là, on pourrait être bon de dire, ben David, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû dire ça. Certainement qu'il y a un constat. David, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas repris? Pourquoi tu n'as pas appliqué une justice? Toi qui es le roi de guerre, toi qui fonce puis qui se plaît à dire que tu luttais avec des ours, des lions, tu es devant Goliath. Puis là, dans ta propre famille, tu n'établis pas la justice. Tu reprends pas. Tu ne parles pas. Et ça nous amène à dire, c'est quoi notre propre rapport, nous-mêmes, avec le mal, avec les situations où la justice doit s'établir. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, faut que ça arrête. Voici les conséquences. C'est quoi nous-mêmes qu'on fait dans nos propres vies, par rapport à nous-mêmes, puis dans nos propres familles? C'est quand est-ce qu'on fait non? Il y a une ligne, ça arrête là. C'est terminé. Le mal ne peut pas continuer. Voici les conséquences qui doivent se mettre en place. Alors, Absalom quitte pendant 3 ans. Et là, c'est un chef d'armée à David qui dit, « Youhou! Tu trouverais pas ça pas pire que ton fils revienne? Hein, on pourrait aller le chercher. » Mais ces 3 années-là, David n'a pas cherché à parler à Absalom. Encore une fois, on laisse aller. On ne parle pas. Ça va se régler tout seul, probablement. Et là, le chef d'armée dit, « Mais on ne peut pas laisser ton fils. On va aller le chercher. » Et David va dire, « OK, c'est bon. Va le chercher. » Alors, le roi, dans 2 Samuel 14, le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna, il bénit le roi. Et Joab se leva, partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison. Et il ne vit point la face du roi. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez? Ou je vais garder le silence, je ne te parle pas, je ne veux pas te voir, je t'ignore. C'est quand même un traitement violent. Dans le sens où, si Absalom revenait, c'est parce qu'il s'attendait de revoir possiblement son père. Possiblement, peut-être, d'être repris aussi, hein, si Absalom revient. Mais ce que David a choisi comme traitement, c'est je t'ignore, je ne te parle pas. Et on aurait l'impression que c'est quand même pas si pire. C'est terrible. Puis encore là, si vous avez des repères de vos propres relations, quelqu'un qui vous ignore, quelqu'un qui ne vous parle pas, quelqu'un que vous avez le goût de dire, bien, écoute, ben, t'es-tu fâché? Dis-moi-le, au moins, si t'es fâché, on va pouvoir régler ça. Puis si t'es plus fâché, bon, bien, je vais pouvoir passer à d'autres choses dans ma tête. C'est terrible de rester dans, on n'a aucune idée, l'état de l'autre personne. Alors, c'est la façon que David a de gérer la situation en disant, je veux pas te voir. Et ça dure 2 ans. 2 ans à éviter la discussion, le contact avec Absalom. Alors, Absalom n'est plus capable. Il dit, pourquoi tu es venu me rechercher? Ça donne quoi? Alors, il veut avoir un contact avec son père, mais ça ne fonctionne pas. David ne veut pas le rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir apparaître tranquillement dans 2 Samuel 15, 13, 14? Mais là, il y a des gens qui viennent informer David. Alors, quelqu'un vient informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Dans le fond, Absalom est en train de monter lui-même veut devenir roi. Alors, j'ai sauté un paquet de bouts, mais ce qu'on voit dans le cœur d'Absalom, c'est moi qui vais devenir le roi. C'est moi qui... Et il se met à arrêter les gens qui vont vers David pour obtenir justice pour des causes qu'ils vont mettre devant David. Et lui va les arrêter, puis il va dire, « Ah, moi, je vais te dire, c'est quoi que tu devrais faire dans ta situation? » Puis on voit un Absalom qui tranquillement prend la place, veut prendre la place auprès de David. Et il s'est formé tranquillement un peuple qui va se mettre à vouloir le suivre dans le peuple d'Israël. Qui vont vouloir suivre Absalom. Et c'est ça que David apprend. Et là, on voit tout de suite David qui dit, « Levons-nous, levez-vous, fuyons, car il n'y aura pas de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur, et il frapperait la ville du tranchant de l'épée. » c'est un homme de guerre. Mais devant nos enfants, devant notre chair, et qu'on perd beaucoup de nos capacités. Et là, on a un David qui est convaincu qu'Absalom va venir le tuer, va venir tuer toute la famille. Alors, il faut fuir. Et tout ce temps-là, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe entre David et Dieu. Est-ce que David parle avec Dieu? Est-ce que David dit, « Coudonc, Dieu, c'est quoi faut que je fasse? » On ne le sait pas. La parole ne nous le dit pas. On est juste devant des comportements. Mais encore une fois, on a un David qui ne dit pas, « Hey, un instant, là, je vais aller parler à Absalom, là, puis on va aller régler ça. » Non, il faut fuir. Le cœur d'Absalom doit être très dur, puis c'est sûr qu'on va... On va mourir. Alors, on voit un David qui fuit, qui quitte. Et je vous mets dans Ésaïe 26, 9, 10, puis aussi Ecclésias. Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. Puis dans Ésaïe, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Bien, c'est ce qu'on voit dans le cœur d'Absalom, qui fait partie de la famille, du peuple que Dieu s'est choisi. Il sait, il a vu son père, il a entendu. Et ici, dans la façon dont Absalom va gérer toute la circonstance, Dieu ne fait pas partie de son plan de match. Je vais faire ce que moi je trouve pertinent. Voici comment la justice va se faire. Je vais tuer Amnon. Puis maintenant, bien, c'est moi qui vais devenir le futur roi. On voit encore les conséquences du péché où c'est moi qui compte, c'est mon orgueil, mon égoïsme. Et jamais je vais questionner Dieu sur les circonstances dans lesquelles je me retrouve. Et c'est exactement ça parce qu'il n'y a pas eu de jugement, parce qu'on n'est pas venu dire ça, c'est non. C'est terminé. Bien, la parole de Dieu nous dit, bien, on n'apprend pas la justice de Dieu. Ça prend qu'on se lève. Et s'il y a des gens qui connaissent qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, c'est nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas la société dans laquelle on évolue. C'est nous. C'est nous qui sommes appelés à se lever et à dire, je connais mon Dieu, puis ça, c'est ce qu'il dit dans ta parole. Ça, c'est mal. Il faut que ça arrête. Puis c'est pas vrai que le mal va arrêter tout seul. C'est du poison, ça s'étend. Alors, ici, on voit que David, en prenant pas position, bien, Absalom n'a pas appris la justice de Dieu. Est-ce que si David aurait intervenu, Absalom tout de suite se serait repenti? Peut-être pas. On ne sait pas. Ça, c'est, on ne l'a pas, l'histoire. Mais c'était quand même de la responsabilité de David de se lever. Pour faire le mal doit cesser dans ma propre famille. Ça doit arrêter. Il y a des conséquences qui doivent être faites. Et des fois, on va comme mettre à des extrémités l'amour et la justice, alors que ça fait partie de l'amour, la justice. Dans la personne de Dieu, Dieu n'est pas morcelé. Dieu est un, et Dieu est amour, et Dieu est juste. Ça va ensemble. Mais de plus en plus, dans le monde dans lequel on évolue, on essaye de diviser ça. Être juste, c'est être méchant. C'est pas l'amour. L'amour, c'est laisser passer, pas intervenir quand le mal est en train de se répandre puis de prendre la place. Alors, on voit ici un Absalom vraiment décidé, puis un David qui doit fuir avec sa famille. Fait que là, vous dites, bien, coudonc Dieu, là, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire-là? On y arrive. On va voir comment Dieu intervient. Alors, on voit que Dieu est parti. Pas Dieu, excusez, David est parti. Et dans 2 Samuel 15, la parole nous dit que David et toute sa famille est partie. Ça a quand même des impacts sur tout le monde. Là. C'est tout le monde qui fuit, sauf ceux qui se sont attachés à Absalom. Mais il n'est pas tout seul, il sort avec sa famille. Et un petit peu plus loin, dans 2 Samuel 15, 25-30, là, on a un petit trésor. On a une perle pour nous. C'est David qui dit, « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. » Bref, on va sauter ce bout-là, mais il dit, « Si Dieu me fait faveur, il va me ramener dans Jérusalem. Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce que lui semblera bon. » David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On voit que le cœur de David, il connaît son Dieu. Il n'est pas en train de se taper sa tête. Il n'est pas en train de dire « Je donne bien un écœurant, ça donne bien pas de... » Non. Il est capable de dire devant son Dieu, « Oui, ça se peut très bien que Dieu, tu me reprennes pour le choix que j'ai fait. » Et c'est correct. C'est correct. J'accepte de me soumettre à la façon dont tu vas vouloir manifester ton amour envers moi, parce que, encore une fois, faire justice, c'est de l'amour. Alors, mais je connais mon Dieu. Je le connais, mon Dieu. C'est pas quelqu'un qui va me condamner, puis me... Fait que je peux me repentir devant lui parce que je le sais que, ben mon Dieu, il m'aime, il est là à la colère, il est plein de bonté, il est plein de miséricorde. Alors, David, ouais, je suis capable d'être devant mon Dieu puis de me repentir puis de dire, c'est correct, Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Je vais accepter la conséquence que tu me donneras. Puis on le voit, là, que c'est pas juste des mots. Il est profondément attristé. Il pleure. Et c'est là que je trouve qu'il y a une petite perle. Il y en a d'autres qui pleurent avec. C'est signe que des fois, quand on accompagne des gens qui peuvent reconnaître, hey, c'est vrai que je ne l'ai pas eu, là. Ouf, je ne l'ai pas eu, puis ouf, ça a eu des conséquences sur les autres. Ouf. Puis d'avoir un ami qui fait oh. Puis qui pleure avec nous, là. Ah, oh, que c'est précieux. Je peux-tu pleurer? On peut-tu pleurer ensemble sur la désolation du péché que ça peut faire? Aïe, aïe. Au lieu que je m'entoure de gens qui diraient « Comment ça que tu n'as pas compris? Comment ça que... » Non. Je pleure. Il y a des gens qui pleurent avec David. Est-ce que ces gens-là pleuraient pour d'autres raisons? Peut-être. Peut-être. Parce que là, tout le monde est déporté. Mais quand même, il n'y a personne qui est là pour venir accuser David. Il n'y a personne qui est là pour... Mais on est-tu capable d'appeler... Le mal, mal, ben oui. Oui, je n'ai pas bien agi. Que Dieu fasse ce qu'il voudra avec moi. Et ça, c'est le cœur de David. On a d'autres exemples où David, quand on le confronte sur son péché, il va faire, ah oui, c'est vraiment moi. Puis oui, je vais accepter la conséquence qui ira avec. Alors, je voulais juste faire sortir cette perle-là parce qu'on voit de David qui connaît son Dieu. Il n'est pas comme ça devant son Dieu. Il est « Je connais ton amour, je connais ta bonté, je t'ai vu tellement agir dans ma vie, puis je le connais que le mal, c'est quelque chose que tu ne veux pas. Fait que oui, j'accepte que tu me reprennes, puis je vais accepter la conséquence que tu vas me donner. » Alors, je trouve qu'il y a une perle dans la façon dont David connaît Dieu, et c'est la question que je nous donne. Est-ce qu'on connaît ce Dieu-là, comme David le connaît, pour dire, ben, est-ce que dans ma famille, j'ai laissé aller des situations que j'aurais dû me lever puis dire, ça arrête ici. Ça arrête ici, ça fait trop de dégâts dans ma famille. Est-ce que je connais assez Dieu pour aller me repentir puis dire, oh, Seigneur, il va falloir que tu me montres comment faire. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Puis à l'inverse, est-ce que c'est moi qui ai eu des comportements qui ont amené ma famille dans une tempête? Est-ce que là aussi, je connais assez Dieu pour être capable d'aller devant lui et dire, « Oh, j'ai vraiment besoin de ton pardon. J'ai vraiment besoin que tu me relèves. Je veux réparer ce que je veux être capable de réparer. Je veux prendre soin de ma famille. Je veux me lever. » Ou, « Oh, ben, ça fait 20 ans. Ça ne vaut plus la peine. » Ah, oh, on a plein de raisons, Mais si je m'expose devant Dieu, c'est quoi qu'il va me demander de faire? Est-ce que ma famille me demanderait de me lever pour aller réparer des choses? Mais ça commence par la repentance devant lui. Sinon, faire pour faire, c'est pas ça que Dieu veut, c'est nos cœurs. Alors, on voit David qui est profondément touché et qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Et tout de suite après, ce qu'on va se mettre à voir tranquillement, c'est qu'il y a des gens qui vont se présenter à David, parce que là, ils s'en vont dans le désert, hein, ils sortent, là, c'est fou. On s'en va, on ne peut pas rester ici. Et là, on va voir des gens qui vont se présenter à David, puis qui vont lui offrir de la nourriture, qui vont lui offrir des moyens de transport. Alors que je pourrais dire, non, je mérite tout ce que j'ai fait, là. C'est épouvantable ce que j'ai fait vivre, là. Je ne suis pas intervenue comme père. Fait que, non, je vais souffrir comme il faut. Non. Tout d'un coup, les gens viennent à David, et David l'accepte. Alors, dans 2 Samuel 16, il y a quelqu'un qui vient lui porter, il va lui dire, « J'ai des ânes qui vont servir de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, tes enfants les plus jeunes, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Je ne savais pas que du vin, ça désaltérait, mais bon, c'est ce qu'il semble dire, dans le désert. Mais une préoccupation pour venir prendre soin des besoins physiques de toute la famille de David. Alors, si on ne goûte pas au pardon de Dieu, puis on se dit non, je mérite ça. Fait que vous pourriez être en train de dire je n'accepte rien de ça, retourne-toi. Ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait. Fait que je vais payer pour. Mais on voit que ce n'est pas ça que David fait. Il est restauré dans sa relation avec Dieu. Je vois la bonté. Dieu veut me bénir. Dieu veut prendre soin de moi, même si ce que j'ai fait a tellement des grandes répercussions. Bien, je vois la main de Dieu qui veut me bénir. Alors, il va accepter ces différents biens-là qu'il va recevoir. Et il va finir par entendre aussi qu'il y a des gens qui vont conseiller Absalom dans sa façon de gérer tout ça. Et il y a entre autres un homme qui est auprès d'Absalom et qui va venir dire à Absalom, « Écoute, moi j'ai un bon plan, là. Voici comment on devrait faire les choses. On devrait s'y prendre de telle façon pour que, dans le fond, le roi et tout le peuple puissent revenir à nous. Fait qu'on va s'organiser pour que le roi, on va le tuer lui tout seul. Puis après, on va reprendre toute sa famille. Puis là, ils vont pouvoir se soumettre à toi, Absalom. » Alors, tout un plan machiavélique qui est en train de se jouer dans le dos de David. Aucune idée de ce qui se passe. Et je vous ai juste mis un petit passage parce que là, il y a un autre conseiller qui vient. Et celui-là, Dieu va l'utiliser pour donner un conseil à Absalom qui va courir à sa perte. Alors Absalom, dans son désir de vouloir se venger, bien, va suivre le conseil de cet autre conseiller-là. Et ce que la parole de Dieu va nous dire dans 2 Samuel 17, « Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. » Alors même si en arrière il se complote quelque chose, Dieu est à l'œuvre, puis il s'organise pour pas que ce plan-là de destruction sur David et le reste de sa famille arrive. Alors, et là, on entend que hey, c'est l'Éternel qui a fait ça. Alors, David, Dieu s'occupe de sa sécurité qui pourrait être menacée. Et ce qu'on apprend quand David, tout d'un coup, va monter contre Absalom, dans 2 Samuel 18, là, le peuple d'Israël qui suivait Absalom fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Alors là, la famille de David s'est levée pour faire face à Absalom et il y a eu 20 000 hommes de l'équipe d'Absalom qui est décédée. Alors, il y a plein de petites perles. Il y en a plein. Et l'histoire finit que, dans le fond, Absalom va décéder aussi, si vous allez lire l'histoire, parce qu'il avait une superbe chevelure. La parole va dire qu'il était d'une très grande beauté à cause de ses beaux cheveux. Mais à cause de ses cheveux, il va rester pris dans un arbre. Et il est en guerre, mais c'est comme ça que ça arrive. Il est pris dans les arbres à cause de ses beaux cheveux. Et le chef d'armée de David va venir le tuer. Alors, si vous lisez, vous allez voir que même quand il a appris la mort d'Absalom, David est complètement dévasté. Il pleure. Non, comment ça qu'Absalom est décédé? C'est moi qui aurais dû mourir à la place. On voit un David qui continue d'avoir été quand même attaché, puis un cœur de père, de mère, malgré la dureté des cœurs. On reste des parents, dire. On voit le cœur de David qui fait « Ah, Absalom, toi aussi, je t'ai perdu. » Puis il va pleurer. Alors, là où je veux nous amener pour finir, c'est on n'a pas tant d'explications sur comment Dieu, comment lui voyait ça. On ne voit pas parler dans 2 Samuel. Mais si on regarde la façon dont David se comporte, on est capable de voir le Dieu qui sert. Et il a écrit un psaume, c'est le psaume 3. Il a écrit un psaume quand il était en train de fuir Absalom. Et voici ce qu'il va dire. Et ça nous parle de toute la relation qu'il a avec Dieu pendant qu'il est dans cette tempête-là où il est en train de fuir. Il va dire, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, « Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. » De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Hein, ça nous parle du cœur de David qui connaissait son Dieu. Alors là où je veux nous laisser, c'est est-ce qu'à travers les histoires de nos vies, de famille, est-ce qu'on a vécu des situations qui nous ont laissés meurtris à cause du péché de certains membres de nos familles? Est-ce que c'est nous qui avons blessé? Mais est-ce qu'on connaît le Dieu de David? Est-ce qu'on connaît ce Dieu-là vers qui on peut aller pour obtenir de lui son pardon, sa miséricorde, son amour? Est-ce qu'on le connaît comme ça ou on lutte avec le fait qu'on voit Dieu avec tellement de dureté, de condamnation? Alors, c'est la question, quel Dieu vous servez? Qui vous connaissez? Il y a le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout nom, veut nous accueillir dans nos manquements les plus grands. Il veut nous restaurer, il veut nous aimer, il veut nous amener à affronter les conséquences de ce qu'on a pu faire. Il veut établir la justice. Il veut qu'on se lève puis qu'on répare ce qui a pu être brisé par notre péché. Alors, connaissez-vous ce Dieu-là? Je vous invite à lire les psaumes de David. Allez voir comment il décrit Dieu, puis vous allez voir qu'il passe par plein d'émotions, puis il finit par dire, « Ouais, mais à mon âme, voici comment est Dieu, voici comment est Dieu. » Puis il va répéter à son âme, « Oublie pas comment est Dieu. » Alors, est-ce que vous connaissez Dieu, le Dieu de David? Alors, en finissant, j'aimerais prier, et je vais vous proposer que si vous avez besoin de prière, si vous voulez qu'on prie pour vous, pour des situations particulières, vous avez besoin d'être restauré, vous avez besoin de connaître le Dieu de David, vous ployez sous la condamnation ou vous ployez sous les conséquences de quelqu'un de votre famille que ça a eu sur vous, bien, on est une équipe qui va prendre le temps de prier avec vous. Alors, prions avant de terminer. Seigneur, tu es cet endroit sûr, tu es cette forteresse, tu es ce rocher où on peut aller se cacher, où on peut aller se coucher là avec tout ce qui peut être lourd en nous. Et Seigneur, combien c'est précieux le calme qu'on peut finir par vivre, même si on voit les conséquences de ce qu'on a pu faire, parce que tu n'es pas là pour nous accuser. Tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous pardonner. Tu es là pour nous laver, pour que le péché, la souillure soit enlevée. Tu veux, Seigneur, qu'on grandisse dans la connaissance de Christ, qui a donné sa vie pour que, justement, on puisse avoir la victoire sur le péché, pour qu'on puisse avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, on a besoin de que tu viennes enlever en nous les faux raisonnements, les façons qu'on a de te voir qui nous empêchent d'aller se réfugier en toi pour aller obtenir ce que notre âme a profondément besoin. Seigneur, tu les connais, les cœurs des frères, des sœurs ici. Seigneur, si encore aujourd'hui les marques sont profondes de ce que le péché de certains membres de leur famille a fait, Seigneur, tu es venu aussi nous dire que par tes meurtrissures, tu nous guéris. Tu t'intéresses aussi à cet aspect-là de nous quand on est meurtri et blessé. Alors, je te prie que la puissance de ton esprit souffle sur chacun ici, Seigneur. Tu viennes restaurer les cœurs. Tu viennes, Seigneur, enlever les faux raisonnements qui ont été mis en eux à cause des abus, à cause des situations difficiles de leur vie. Que ta vérité règne. Et la vérité, c'est ce que toi, tu déclares sur eux. Qu'est-ce que toi, tu dis sur eux, Seigneur? Je te prie que ça, tu viennes le faire avec une puissance, avec un fondement qui ne s'arrachera plus, mais qui va venir les affermir pour le reste de leur vie. Je te prie, Seigneur, que tu viennes consoler, que tu viennes restaurer, Seigneur, que tu viennes vraiment placer par ton esprit la vérité qui libère. Alors, Seigneur, viens faire l'œuvre que chacun de nous avons besoin. Et merci d'être celui qui nous transforme, qui nous amène de gloire en gloire, et qui nous amène, Seigneur, à vouloir te servir toujours plus parce que tu es un Père merveilleux, parce que Jésus, tu es un Sauveur et un Seigneur doux et humble de cœur. On veut vous servir, Seigneur. Alors, que ta volonté soit faite ce matin dans chacun de nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus. Amen.